Bonjour à tous, frères et sœurs. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année, pour ceux que j'ai pas, à qui je n'ai pas souhaité déjà. Et je vous transmets les salutations de l'église de Rumagem. Avant de commencer, je voulais juste rajouter quelques mots par rapport à ce que mon père a dit sur la jalousie. Parce que Dieu ne veut pas, bien sûr... Enfin, quand on dit que Dieu est un Dieu jaloux, il ne veut pas qu'on aille après des idoles. Et derrière les idoles, on met facilement certaines choses. On met l'argent, le travail, on met des personnalités qu'on peut aduler. Mais je dirais qu'on peut aller même plus loin. C'est toute chose de qui on attend le bonheur. Et si vous rentrez du travail, par exemple, et que vous avez une dure journée... Et que vous vous dites, bon, c'est bien, je vais rentrer à la maison, je vais me mettre devant la télé, regarder une bonne série, avec une bière fraîche, et que vous attendez de ça une satisfaction et un bonheur, c'est de l'idolâtrie aussi. Donc tout ce que... C'est pas qu'en soi, regarder un film ou siroter une bonne bière fraîche soit un péché, on a le droit, et parfois regarder un bon film, ça nous permet de nous changer les idées, et puis c'est une bonne chose, hein. Mais tout dépend de l'attitude de notre cœur. Si on attend de ça une satisfaction, que ça va remplir notre cœur d'une certaine manière, c'est une idole. Et donc, Dieu vraiment attend de nous notre cœur en entier et qu'on attende de lui vraiment notre satisfaction, notre bonheur. Donc, voilà, dans l'identification des idoles qu'on peut avoir, c'est plus que juste des idoles qu'on identifie assez facilement, mais voilà. C'est vraiment notre cœur entier, donc à s'attendre vraiment à lui dans tous nos besoins, dans toutes nos aspirations, dans toutes ces choses-là. Moi, je vais prier, je vais passer maintenant au message. Seigneur, merci pour ta parole. Et c'est vrai que nous voulons être bien conscients de ce que ça veut dire que tu es un Dieu jaloux. C'est toutes nos sources, il y a un passage aussi qui dit ça, toutes nos sources sont en toi, c'est en toi qu'on peut vraiment tirer toute notre satisfaction, notre joie, notre bonheur. Et ouais, que tu nous aides à identifier dans nos vies aussi tout ce qui n'est pas encore à ta gloire. Toutes les choses que nous recherchons parfois et qui en pensant qu'elles vont nous apporter une joie, un bonheur. Mais Seigneur, il n'y a que toi qui peux nous apporter ces choses. Et nous voulons vraiment nous mettre à ton écoute aussi, à l'écoute de ta parole, pour recevoir ce que tu veux nous enseigner. Parce que nous savons que tes plans sont des plans d'amour pour nous et tu veux nous nourrir, alors aide-nous vraiment à avoir une oreille attentive et que tu puisses continuer cette œuvre que tu as commencée en nous. Amen. Alors je vais vous partager aujourd'hui, je vous ai partagé les autres fois où je suis venu sur les... J'ai commencé les paraboles de Matthieu 13, donc je continue avec vous. Donc on voit que dans cette série de paraboles... au chapitre 13, le Seigneur nous enseigne différents aspects du royaume de Dieu. Donc il nous a décrit dans la parabole des terrains comment on peut recevoir la parole de Dieu. Dans la parole du bon grain et de l'ivraie, on voit le Seigneur qui nous décrit l'Église et comment il nous présente l'Église. Et aussi ce qui va arriver au sein de l'Église avec le bon grain, l'ivraie qui va être... qui est semé dans l'Église aussi, qui vient mettre du désordre parfois. Et dans la parabole qu'on va étudier aujourd'hui, ben, le Seigneur nous parle de son royaume, de son origine, jusqu'à son établissement. Alors, elle nous dit la parabole, je vais relire, donc Matthieu 13, versets 31 à 32. Il leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénevé qu'un homme a pris et semé dans son champ. » C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Alors, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénevé. Alors on voit différentes choses dans cette parabole. Je vais parler d'abord du plan de Dieu. Le semeur décide de planter une graine. Il souhaite vraiment avoir un plant de moutarde. Bon, la graine de sénevé, apparemment, hein, c'est la graine de moutarde. Donc il souhaite vraiment avoir un plant de moutarde. Donc que fait-il ? Est-ce qu'il va, dès qu'il a cette idée, il va aller semer, quelle que soit la saison, quel que soit le temps? Est-ce qu'il va semer sans préparer son terrain? Non, ça c'est évident. Une fois qu'il a pris la décision de planter la graine, il va choisir un coin dans son champ où la planter, il va préparer le terrain, il va labourer, enlever les cailloux, et ensuite il va attendre le temps, la saison qui est favorable. Alors dans cette parabole, la graine plantée, qui est devenue arbre, représente le royaume de Dieu. Et on sait bien que depuis la création du monde, le Seigneur a le désir d'établir son royaume, ce royaume où Dieu peut marcher en compagnie de ses enfants, comme au temps d'Adam et Ève dans le jardin, où Dieu marchait en compagnie d'Adam et Ève. On peut lire dans Matthieu 23, verset 37, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. On voit bien dans ce verset le désir ardent de Dieu de rassembler ses enfants, de vivre ce royaume, de pouvoir marcher en leur compagnie. Alors la façon d'établir son royaume, Dieu la connaît depuis le début, comme le fermier qui veut planter qui veut avoir un arbre, il connaît bien, il sait bien ce qu'il doit faire, il faut qu'il plante une graine. Donc ça, Dieu, il connaît la solution pour établir son royaume depuis le début, il faut planter la graine, il faut donc envoyer Jésus. On peut lire dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 à 20. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc la décision, elle était bien prise depuis l'origine. Tout ce qu'il restait à faire, c'était de préparer le terrain, de choisir et de préparer le terrain. Alors, comme on l'a vu dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, le champ, c'est le monde. Donc, Dieu s'est choisi un endroit dans son champ. Il a choisi le territoire de la Palestine. Il s'est choisi un peuple à travers le peuple d'Abraham, à travers Abraham. Vous n'avez jamais trouvé ça injuste que Dieu choisisse Jacob au lieu d'Ésaü, que Dieu choisisse Judas au lieu de ses frères, par exemple. On voit Dieu qui choisit à de multiples occasions dans la Bible. Est-ce que les autres avaient moins d'importance? Non, je ne pense pas. Mais Dieu choisit parce qu'il avait un but. Il préparait le chemin pour Jésus-Christ. L'homme qui veut planter une graine dans son champ ne va pas retourner l'ensemble de son champ, ça ne sert à rien. Il prépare le coin du champ qu'il a choisi pour réaliser le plan qu'il s'est fixé. Là, la seule solution pour établir le royaume, c'était d'envoyer Jésus. Et donc toute l'attention de la Bible se focalise sur la lignée qui amènerait le Sauveur. Donc Dieu a choisi un endroit. Il a préparé le terrain, il a donné la loi, les 10 commandements, il a envoyé ses prophètes, et ensuite il a attendu le temps favorable. On imagine le peuple d'Israël qui attendait le Messie, hein, ça avait été préparé, ça avait été prédit, et pendant des siècles ils attendaient le libérateur. Beaucoup ont peut-être désespéré, mais au moment voulu, il y a Dieu qui a envoyé son ange vers Zacharie, puis vers Marie et Joseph, il leur a dit: maintenant, c'est le moment, vas-y. On le voit aussi dans Galates 4, versets 4 et 5. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Donc, au temps marqué, au temps favorable, Dieu a agi et il a envoyé Jésus. Il a planté la graine. Alors cette parabole, elle nous parle aussi de l'humiliation du Seigneur. Donc on a dit, Dieu a envoyé Jésus, il a planté la graine. Mais la parabole ne nous dit pas qu'il a planté une petite graine qui est devenue un arbre, ce qui aurait déjà été un contraste assez parlant. Non, la parabole nous dit que c'est la plus petite de toutes les graines. La graine de sénevé représente quelque chose d'insignifiant. Et on peut lire dans Ésaïe 53, versets 1 à 3. Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Alors cette graine de s'énever sans importance, elle représente bien Jésus, venu comme un simple homme. En prenant notre condition d'homme, Jésus s'est déjà humilié de la gloire qu'il avait. Il a accepté d'être un simple homme. Il aurait pu s'arrêter là. Il aurait pu prendre le pouvoir par son autorité, établir son règne, comme les disciples l'attendaient, hein, du Messie. Mais non, il est venu en tant qu'homme et il s'est rendu serviteur. Et après une vie de service, il s'est encore abaissé jusqu'à donner sa vie. Et il n'est pas mort d'une façon digne, héroïque, comme sur un peloton d'exécution. Non, il est mort sur la croix, parmi les malfaiteurs. On le voit encore dans Philippiens 2, versets 5 à 8, qui nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Le Seigneur Jésus s'est humilié à l'extrême. Il a accepté d'être la plus petite de toutes les graines aux yeux du monde. Par amour pour toi, pour moi. Pas étonnant que la croix soit une folie pour ceux qui périssent. C'est dans 1 Corinthiens 1 qu'on lit ça. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Alors de même, la graine, c'est bien la source de l'arbre. Jésus est bien la source du royaume de Dieu, son commencement. Lui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et on peut lire encore dans Jean 12, « en vérité, verset 24, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Donc on voit que Christ est mort pour créer ce royaume de Dieu. On a aussi dans Hébreux 6, « Jésus est entré dans le temple comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Donc cette parabole nous parle aussi, Jésus est bien la source du royaume. Alors il y a un temps d'humiliation, mais après l'humiliation vient la gloire. La graine a donc été plantée, elle est morte. Elle est morte pour donner vie à l'arbre. Donc il est temps ensuite pour l'arbre de se développer. On a lu tout à l'heure dans Ésaïe 53, on peut lire la suite de ce passage. Dans Ésaïe 53, versets 10 à 12. « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Et plus loin, on lit « Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. » Alors plus haut, on a lu dans Philippiens aussi, verset 2, à propos de Jésus qui s'est humilié lui-même. Et si on prend aussi la suite de ce verset, versets 9 à 11, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Oui, après cette humiliation vient la gloire. Alors pour parler du royaume de Dieu et de sa gloire, le Seigneur compare le royaume de Dieu à un arbre qui se développe. Je pense que c'était une image familière pour ceux qui l'écoutaient à l'époque, qui connaissaient les textes de l'Ancien Testament, parce qu'on peut voir à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament cette image de l'arbre qui est prise pour parler de la grandeur d'un royaume. On le voit par exemple dans Ézéchiel 31, versets 3 à 11. « Voici, la Syrie était un cèdre du Liban. Ses branches étaient belles, son feuillage était touffu, sa tige élevée, et sa cime s'élançait au milieu des pérameaux. » Si on voit un peu plus loin, on lit « Tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses branches, toutes les bêtes des champs faisaient leurs petits sous ses rameaux, et de nombreuses nations habitaient toutes à son ombre. » Si on va encore un peu plus loin, « Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté. Je l'avais embelli par la multitude de ses branches, et tous les arbres d'Éden dans le jardin de Dieu lui portaient envie. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce qu'il avait une tige élevée, parce qu'il lançait sa cime au milieu des pérameaux, et que son cœur était fier de sa hauteur. Je l'ai livré entre les mains du héros des nations, qui le traitera selon sa méchanceté, je l'ai chassé. » Dans ce passage, la Bible nous parle de la grandeur du royaume d'Assyrie. Malheureusement, la grandeur de ce royaume a poussé son roi à l'orgueil, et le jugement de Dieu est tombé sur cette nation. On le voit aussi dans Daniel 4, c'est où on voit, je ne vais pas prendre le passage, mais c'est le roi Nebuchadnezzar qui raconte le songe qu'il a reçu de Dieu. Et on voit un arbre aussi qui représente le roi dans toute sa puissance. Mais là aussi, on voit que le roi est jugé à cause de son orgueil. Mais on voit aussi dans d'autres passages Dieu qui utilise l'image de l'arbre pour son royaume. Dans Ézéchiel, par exemple, 17, versets 22 à 24, on voit, il dit « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, j'enlèverai moi la cime d'un grand cèdre et je la placerai, j'arracherai du sommet de ses branches un tendre rameau et je le planterai sur une montagne haute et élevée. Je le planterai sur une haute montagne d'Israël. Il produira des branches et portera du fruit. Il deviendra un cèdre magnifique. Les oiseaux de toute espèce reposeront sous lui. Tout ce qui a des ailes reposera sous l'ombre de ses rameaux. Et tous les arbres des champs sauront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'est levé et élevé l'arbre qui était abaissé, que j'ai desséché l'arbre vert et fait verdir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. » Alors dans ce passage, Dieu révèle que c'est lui, bien sûr, qui va susciter un libérateur et que ce royaume dont il sera l'initiateur commencera d'abord de façon humble, comme une jeune pousse. C'est exactement ce qu'on retrouve dans cette parabole. D'abord la graine qui commence à pousser de façon très humble. On voit aussi Satan, qui est l'arbre qui s'est levé, qui a été jugé, bien sûr, qui a été abattu. On voit cet orgueil de Satan dans le passage dans Ésaïe 14. Ça nous parle du roi de Babylone, mais à travers le roi de Babylone, c'est de Satan dont il est question aussi. Ça nous dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Par contre, l'apôtre Paul nous dit de Jésus, dans Colossiens 2, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Le prince de ce monde, Satan, a bien été jugé et humilié à la croix. Donc, comme on le voit dans ce passage où on parle de cet arbre qui a été abattu et de l'autre qui a été planté pour développer un royaume. Mais on voit bien Jésus qui est bien donc l'arbre qui était abaissé, même, je dirais même plus, qui s'est abaissé lui-même, comme on l'a lu dans Philippiens 2 tout à l'heure. Mais Ouais, ce passage d'Ézéchiel nous parle d'un tendre rameau pour parler de Jésus-Christ. Et on retrouve le même vocabulaire dans d'autres passages qui nous parlent du Messie, par exemple dans Ésaïe 11. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc cette image de l'arbre, elle nous parle bien d'un royaume puissant, glorieux, qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Mais l'image de l'arbre, elle nous donne aussi d'autres... Ça nous parle d'autre chose aussi. Bon, rapidement, un arbre, bien sûr, il y a ses racines dans le sol et il s'élève vers le ciel. Donc, bien sûr, le royaume de Dieu, ça commence dès aujourd'hui, hein, sur la terre, mais ça nous emmène vers la patrie céleste. L'arbre, bien sûr, ça transmet l'idée de longévité, de durée. L'arbre, il passe à travers les étés, les hivers, la pluie, le vent, le soleil, il dure. Et on voit bien que le royaume de Dieu s'est bien développé à travers les siècles, malgré les persécutions, les oppositions. Depuis 2000 ans, il a pris de l'ampleur, malgré les tempêtes qu'il a dû affronter. On voit bien l'arbre comme symbole de stabilité, de longévité. Dans Ésaïe 9, verset 6, on peut lire « Donnez à l'empire de l'accroissement » et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » On voit, c'est bien ce que Dieu a fait à travers tous ces siècles. Il a établi son royaume et il le maintient. On voit bien aussi dans tous ces pays où il y a la persécution, que Dieu est à l'œuvre et qui maintient son royaume, qui permet encore qu'il se développe. Alors l'arbre, on nous parle de durée. En comparaison de l'arbre, on voit les légumes. Donc, moi, les légumes que je connais, il faut les replanter tous les ans. Je ne sais pas s'il y a quelques légumes qui existent qui peuvent être pérennes. Mais enfin, pour ceux que je connais, on les replante tous les ans, alors que l'arbre, lui, est planté une fois. Alors ça m'a fait penser cette image au passage d'Hébreux 10, versets 1 à 14. On nous dit « En effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. » Et si on va un peu plus loin, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter le péché, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alors ces légumes, est-ce qu'ils représentent la première alliance avec des sacrifices renouvelés tous les ans? Ou est-ce qu'ils représentent les royaumes de ce monde qui se succèdent les uns après les autres, de génération en génération? Les graines qui sont à la source des légumes, ils peuvent représenter les hommes qui ont été à la source de la première alliance, comme Abraham, Moïse, ou ils peuvent représenter aussi tous les grands hommes qui ont laissé derrière eux des royaumes. Quoi qu'il en soit, on sait que les passages dans Ézéchiel et Daniel, qu'on a lus tout à l'heure, nous indiquent que les oiseaux représentent toutes les nations. Et les nations, dans la parabole, viennent se réfugier dans l'arbre. Ça me fait penser au passage où Dieu dit à Abraham « Toutes les nations seront bénies en ta postérité » dans Genèse 22. Alors, que les légumes représentent la première alliance avec tous les sacrifices, que les légumes représentent les royaumes de ce monde, ce qui est sûr, c'est qu'un oiseau est plus en sûreté dans un arbre que caché parmi les légumes. Si les nations se confient dans les sacrifices, la loi ou dans les royaumes de ce monde, elles sont en danger. Jésus seul peut leur apporter le salut. Alors si je résume un petit peu tout ce que cette parabole nous enseigne sur le royaume, on voit d'abord, premièrement, que Dieu est l'initiateur. Il avait un plan de toute éternité et il l'a mis à exécution au temps marqué, après avoir préparé les lieux et les circonstances. C'est en Jésus que se trouve la source du royaume. Il s'est humilié à l'extrême en donnant sa vie sur la croix pour toi et moi. Le royaume des cieux est un royaume puissant et glorieux. Il a été initié une fois pour toutes et perdure à travers les siècles jusque dans la vie éternelle. Et le seul salut pour les nations se trouve en Jésus, dans le royaume de Dieu. Alors à travers cette parabole, je pense que le Seigneur aussi annonçait à ses disciples qu'ils devaient être patients, eux qui s'attendaient à ce que le royaume de Dieu se manifeste rapidement avec puissance, comme on le voit dans Actes 1, verset 6. On voit les apôtres qui demandent au Seigneur « Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Et Jésus leur répond « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc il leur dit à travers cette parabole, le royaume de Dieu est comme des cieux est comme une graine. Il commence d'une manière qui peut sembler insignifiante. Il va prendre un peu de temps à se développer, mais il deviendra de façon certaine ce que Dieu en a voulu. Le plan de Dieu pour la graine, c'est bien qu'elle devienne un arbre. Et le plan de Dieu pour son royaume, c'est bien qu'il s'étende jusqu'aux extrémités de la terre, et c'est ce qui s'est produit déjà, et c'est ce qui se produira encore. Alors il y avait d'autres pistes un petit peu de réflexion suite à cette parabole, parce que bien sûr on peut interpréter une parabole sous différents angles, en interprétant un petit peu les différents personnages ou événements d'une certaine façon. Alors je vous laisse avec quelques autres pistes de réflexion. Donc concernant le plan de Dieu, hein, on a vu déjà qu'il y a eu ce plan de Dieu, le fermier, l'homme qui voulait planter son arbre, qui a préparé le terrain, il y a eu tout un temps, hein, de préparation, et tout le peuple d'Israël qui attendait, comme on l'a vu tout à l'heure, le salut en Jésus, enfin le Messie en tout cas, ben ils ont pu attendre pendant longtemps et se demander ce qui se passait. Et donc c'est pareil dans nos vies aussi, hein, Dieu a un plan pour nos vies. Et parfois on passe par des épreuves, par des temps difficiles, par toutes sortes de choses. Et on peut avoir l'impression que ça ne changera jamais. Le diable est là aussi pour nous dire, tu vois, tu es dans cette situation, ça ne changera jamais. Mais Dieu prépare les choses. Et il y a un temps favorable, comme il y a eu un temps favorable pour envoyer Jésus. Il y a un temps favorable aussi pour répondre à nos besoins. Alors ne désespérons pas, hein, prenons courage. Au temps fixé par Dieu, il dira « c'est assez » et tout sera différent. Alors une deuxième piste de réflexion, on voit aussi que, bien sûr, la graine pour moi c'est Jésus, hein. Je pense que c'est la signification principale. Mais on peut aussi interpréter ça en disant que le message de l'Évangile, il est tout petit dans son contenu. On peut le résumer avec le passage de Romains 3, versets 23 à 24. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » C'est simple, c'est concis. Mais ce passage qui tient en deux versets peut transformer une vie, peut avoir des conséquences énormes pour celui qui le prend au mot. Le fait de croire et d'accepter ce message peut libérer une puissance de vie en nous, de transformation, parce que le Saint-Esprit vient demeurer en nous. Si Dieu vient habiter en nous par le Saint-Esprit, il ne peut que se passer des choses extraordinaires. Donc cette image de la graine minuscule qui devient un arbre magnifique, c'est aussi l'Évangile reçu dans toute sa simplicité, mais qui peut produire des effets merveilleux. Mais bien sûr, pour que l'Évangile soit reçu, il faut semer la graine. C'est pas difficile, hein, de semer une graine, de jeter une graine. préparer un terrain, ça peut être difficile, hein. Ça peut demander quand même pas mal de force. Il faut retourner la terre, il faut casser les mottes de terre, enlever les cailloux. C'est fatigant. Mais ça, je dirais, c'est pas vraiment à nous de le faire, hein. On n'est pas capable d'agir dans un cœur, de transformer les façons de penser, de changer le cœur dans sa profondeur. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Mais semer une graine, ça on peut, c'est pas compliqué. Et grâce au travail de l'esprit qui aura travaillé le terrain, cette graine va pouvoir germer et produire quelque chose de magnifique. Un évangile offert, une parole de bénédiction, un acte de gentillesse, toutes des petites choses simples, mais qui peuvent avoir des effets incroyables, qui peuvent changer des vies. Alors il faut au moins semer. Il faut que tous on ait à cœur, qu'on comprenne qu'on a tous un rôle à jouer dans le plan de Dieu. On a tous cette capacité de semer une petite graine. Et il faut qu'on prenne ça à cœur, et à cœur les perdus, les personnes qui sont autour de nous et qui se perdent. Il n'y en a aucun qui est exclu de cette vocation que le Seigneur nous a donnée, de aller faire de toutes les nations des disciples. On a tous un rôle à jouer. On n'est pas tous évangélistes, mais on semer une petite graine, donner un évangile, on peut tous le faire. Donc cette parabole, pour moi, le Seigneur nous encourage aussi à être actifs dans les petites choses. Et il nous dit, car voici, dit-il, ce qui peut se produire dans le royaume de Dieu. Une graine minuscule va se transformer en un arbre magnifique. Donc soyons simples, prêchons l'évangile dans toute sa simplicité. Et si Dieu a transformé cet acte d'humilité extrême de Jésus, Jésus s'est vraiment humilié, et qu'il a transformé cet acte d'humilité en puissance de vie, il peut aussi transformer nos petits actes très humbles en grandes choses pour sa gloire. Donc soyons fidèles dans les petites choses. On voit dans la parabole des talents, dans Matthieu 25, à la fin, le Seigneur il dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Alors qu'on puisse vraiment prendre conscience qu'on a ce rôle dans notre vie de tous les jours à jouer, tous ceux qui nous entourent. On a toujours des occasions de pouvoir témoigner, de partager l'amour de Dieu. Qu'on puisse vraiment prendre ça chacun à cœur. Et ensuite, une dernière piste aussi de réflexion. On voit cette graine qui est plantée, l'œuvre. On peut voir dans cette graine qui est plantée aussi l'œuvre qui est commencée en chacun de nous et qui va devenir un arbre magnifique. Mais l'arbre ne pousse pas du jour au lendemain. Il faut du temps. Et on voit que le Seigneur fait son œuvre dans le cours des années. Et cette œuvre de grâce peut devenir une source de bénédiction aussi pour ceux qui les entourent, hein, comme tous les oiseaux sont. L'arbre était une source de bénédiction pour les nations qui entouraient les oiseaux. Mais tout ça peut prendre du temps. Alors on était dans les Alpes il y a quelques années, et puis on mangeait au bord d'un torrent, et on a pu observer l'œuvre de l'eau sur les rochers, donc les rochers qui étaient polis, qui étaient tout arrondis. Alors j'ai pensé à ça, je me suis dit: oui, l'œuvre de Dieu se fait dans le temps. On aimerait bien souvent voir le Seigneur agir puissamment en nous, voir de grandes choses, et quand on a l'impression que ce n'est pas le cas, on aurait tendance à se désespérer. Mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas de grandes choses se produire que l'œuvre de Dieu n'est pas puissante en nous. Si on considère le torrent, ce n'est pas un petit filet d'eau qui a formé ces rochers et toutes ces formes magnifiques. Ce n'est pas un petit filet d'eau, c'est un torrent puissant aussi. En hiver, quand il y a la fonte des neiges, c'est vraiment un torrent puissant. Donc ce n'est pas parce qu'on ne voit pas l'œuvre, quand cette œuvre de l'eau sur le rocher, elle se fait vraiment petit à petit. Mais le torrent est très puissant. Donc ce n'est pas parce qu'on ne voit pas cette œuvre dans nos vies que Dieu n'agit pas puissamment. Et voilà, Dieu, il faut beaucoup de puissance pour changer un cœur de pierre. Et même si on ne le voit pas visiblement, il faut avoir cette confiance dans le Seigneur qu'il agit puissamment en nous. Et voilà, Dieu ne veut pas briser notre cœur comme un jet d'eau sous pression pourrait briser la roche, mais il veut le polir. Donc on peut persévérer, comme cette petite graine qui a été plantée va devenir un bel arbre, porteur de bénédiction. On peut avoir cette confiance que Dieu a commencé cette œuvre en nous. Hein, on le voit dans Philippiens 1, verset 6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Voilà les quelques réflexions que j'avais eues par rapport à ce passage. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.